j'ai documents à l'appui, pu démontrer que pendant que Coca-Cola publiquement affichait, grâce à des publicités, ils étaient cette boisson de la liberté, pour des raisons économiques, ils ont continué à travailler avec l'Allemagne nazie. Il faut savoir que l'Allemagne, avant la guerre, est le marché le plus important au monde, hors États-Unis, pour Coca-Cola. Ils ont commencé à essayer d'aller vendre des produits à droite, à gauche, en France, en Angleterre, etc. Mais le pays où l'investissement le plus fort est fait et où la consommation est la plus prometteuse pour eux est l'Allemagne. Et puis là, il y a la guerre.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Souvent imité, jamais égalé, dit-on souvent à propos des préparations culinaires qui ont marqué l'histoire. Dans un monde capitaliste ultra concurrentiel, les fabricants ont tout intérêt à soigner leur avantage compétitif et peaufiner le caractère unique, ou en tout cas prétendument unique, de leurs produits. De quoi le récit de cette authenticité est-il le nom? Comment les secrets de fabrication font-ils le mystère d'une marque? À quel point ces informations sont-elles réellement sensibles et confidentielles? Comment sont-elles protégées? Comment le secret industriel et le brevet fonctionnent-ils? Dans cette série sur les secrets de fabrication, nous allons plonger dans différents cas pratiques afin de comprendre les liens intimes entre alimentation et concurrence. Manger, c'est toujours mettre un peu du monde extérieur en soi. Manger est ainsi un geste rond, entier. C'est un geste mu par un désir, une faim, une volonté d'englober et d'engloutir. Que se passe-t-il dans l'appétit et l'appétence qui précèdent le moment de l'ingestion ? Depuis le début du mois, nous nous interrogeons sur l'un des rouages de la désirabilité alimentaire, la part de mystère revendiquée par celles et ceux qui créent la nourriture, que ce soit les chefs du monde de la gastronomie ou les fabricants de l'industrie agroalimentaire. Mais en matière de nourriture et de secrets de fabrication, d'alimentation et de mythologie, d'identité et de récit, une marque fait office de cas d'école historique. Cette marque, c'est Coca-Cola. Et pour en parler, j'ai tendu le micro à William Raymond, auteur de Coca-Cola, l'enquête interdite, un livre publié chez Flammarion en 2006.
Je m'appelle William Raymond, je suis journaliste d'enquête, scénariste maintenant. Et donc j'ai écrit ce livre sur l'histoire de Coca-Cola, Coca-Cola, l'enquête interdite, il y a maintenant une quinzaine d'années.
William Raymond explique que Coca-Cola est LA boisson populaire par excellence, celle qui a connoté tantôt le patriotisme et la liberté, tantôt la jeunesse et le dynamisme. En cela, la marque nord-américaine est une parfaite illustration de l'idée de storytelling marchand, soit une forme de propagande contemporaine capitaliste qui crée des consommateurs et des citoyens à l'image de ceux qu'ils gouvernent, pour reprendre les mots du chercheur au CNRS Christian Salmon.
Jusqu'à l'émergence de Apple il y a quelques années, Coca-Cola était la marque la plus populaire au monde, où son logo, sa calligraphie extrêmement populaire était reconnue même par des gens qui ne savaient pas lire dans des pays en voie de développement. Donc ça fait partie de cette catégorie de marques extrêmement puissantes qui s'appuie sur un storytelling qui est l'essentiel de sa communication. Donc un storytelling qui va évoluer avec le temps. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un storytelling d'une boisson qui apportait la liberté, qui allait venir libérer, qui était patriote, etc. Dans les années 60-70, c'était une boisson jeune qui allait unifier le monde. Maintenant, face à des défis à la fois écologique et de santé, Coca-Cola essaie de se repositionner par rapport à ça. Mais le plus grand storytelling de Coca-Cola, c'est le fait que c'est une boisson unique à son genre avec une recette prétendument secrète. Et tout a été basé sur ce secret.
Coca-Cola, c'est aussi l'histoire d'une légende, celle d'une recette secrète jalousement gardée dans un coffre-fort à Atlanta. Une histoire inventée de toutes pièces par Robert Woodruff, qui fut le patron de la compagnie entre 1923 et 1954. Ce narratif a fortement contribué à mythifier la boisson populaire. Car en fin de compte, ce qu'a toujours vendu Coca-Cola, c'est moins un soda qu'une image, un symbole.
Le truc de la recette secrète, pour comprendre d'où ça vient et comment ça a été mis à l'heure, il faut remonter en 1886 à la création à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis, de Coca-Cola par un pharmacien. C'est un élixir qui est en 1886. À l'époque, tout le monde part, c'est un secteur qui est extrêmement porteur. Il y a dans tous les États-Unis, de manière régionale, des boissons qui ne sont pas encore ces boissons qu'on consomme trop aujourd'hui, mais qui sont des boissons qui vont revigorer, par exemple, la personne qui va être malade, qui va être fatiguée. Bon, peut-être le fait qu'il y ait des feuilles de coca qui ne sont pas décocaïnisées à l'époque est lié à ce retour de vigueur, mais en tout cas, Coca-Cola se positionne comme ça. Et donc, d'entrée, il y a ce côté un petit peu mystique de « Ah, c'est une boisson un petit peu secrète ». Et puis, après, une trentaine d'années plus tard, lorsque le côté boisson pharmaceutical est remplacé par le soda, et que les sodas, via les soda fontaines, qui sont des bars spécifiques, souvent des pharmacies d'ailleurs, où on va boire cette boisson une fois par semaine, commencent à se développer dans tous les États-Unis, il y a des concurrents. Et là, la marque, le PDG de l'époque, décide de se dire, bah tiens, pour marquer notre spécificité, on va dire que nous, on est unique et qu'on a cette recette secrète. Alors, la question, savoir est-ce que c'est effectivement une recette secrète qui est baptisée le 7X, c'est-à-dire qu'il y a tout un mythe autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a un nom de code, le 7X. Il y a cette légende que simplement elle est dans un coffre-fort, dans une banque d'Atlanta, un coffre-fort souterrain, et que seulement 2 ou 3 personnes peuvent y accéder, qui peuvent pas voyager ensemble. C'est pire que le code de la valise nucléaire du président des États-Unis. Cette mythologie qui va se créer autour de la recette, elle est plus fausse que vraie, dans le sens que il y a eu plusieurs fois des publications, des documents d'archives qui ont été découverts de la liste des ingrédients. On sait qu'aujourd'hui, mais depuis très longtemps d'ailleurs, l'exemple auquel je pense qu'un exemple historique, c'est Castro, Cuba, qui est fan de Coca-Cola et qui, bien sûr, ne peut pas boire du Coca-Cola, qui est le symbole de l'Amérique capitaliste. Et donc, qui demande à ses chimistes d'analyser le Coca-Cola et qui se fait faire son propre Coca, qui s'appelle pas Coca évidemment, mais qui a exactement le même goût. Parce que aujourd'hui, n'importe quel laboratoire un petit peu pointu peut prendre le Coca-Cola, l'analyser et vous dire exactement les ingrédients et les dosages. Mais Coca-Cola continue à jouer un petit peu moins aujourd'hui, mais continue à jouer cette carte de la recette secrète. Alors que c'est ça le secret de Polichinelle, le goût du Coca-Cola évolue d'un pays à l'autre parce que Coca-Cola a su s'adapter aux différents palais, aux différents goûts de son public. Donc c'est pas forcément la même recette de partout. Et plus qu'une boisson, Coca a toujours essayé de vendre une image. Donc finalement, on pourrait faire n'importe quoi, on vend une image, on vend un symbole.
Dans la publicité, dans les rayons des grandes et moyennes surfaces, dans les fast-foods, dans les films et les séries, Coca-Cola est partout. J'étais d'ailleurs curieuse de savoir comment William avait eu l'idée d'enquêter sur cet empire. Et pour cela, je lui ai demandé de me raconter la place qu'avait cette marque dans sa jeunesse et le point de départ de son travail d'investigation.
Quand je rentre dans l'adolescence dans les années 80, c'est vrai que Coca-Cola a une image extrêmement positive, c'est la jeunesse avec les dents blanches, les cheveux au vent, c'est tout va bien mieux avec Coca-Cola. On voit ces publicités de cette jeunesse qui va formidablement bien, qui est solidaire, etc., etc. Donc, on se reconnaît dans ça. Pour moi, quand je grandis, ça fait partie de cette espèce d'imaginaire américain façonné souvent par Hollywood, d'ailleurs, vraiment qui parle à ma génération. Donc, moi, comment je m'intéresse au sujet, c'est que à l'époque, donc adolescent, je commence à collectionner des objets Coca-Cola. On en trouve même dans les commerces, c'est quelque chose qui se fait, des posters, des choses comme ça. Et en discutant avec mon père me dit que ça n'a pas vraiment de sens de partir sur quelque chose d'aussi vaste et donc d'essayer de concilier cette envie avec un souhait de raconter une histoire qui n'existe pas à l'époque et l'histoire de Coca-Cola en France. Et donc on commence à faire avec lui ce travail-là, d'essayer de ramasser à la fois des objets mais aussi des témoignages. Et c'est comme ça qu'un jour, je décide d'aller plus loin et d'utiliser mon activité de journaliste d'investigation, de me dire, bah tiens, ça serait bien maintenant d'aller dans le symbole et de raconter cette histoire qui n'a pas forcément de rapport avec son histoire publique.
Mais preuve, s'il en fallait une, que Coca-Cola est tout à fait en maîtrise de son image et verrouille sa com, William Raymond m'a expliqué que l'enquête n'a pas été une promenade de santé.
J'ai souvent eu cette formule et qui, avec le recul et une certitude, j'ai écrit des livres sur la mafia, sur le crime organisé, sur l'assassinat de John Kennedy, sur le système politique mis en place par George W. Bush. J'ai fait depuis des tas d'autres enquêtes sur Trump, etc., etc. Mais en fait, celle sur Coca-Cola et par expansion, j'ai écrit aussi 2 livres sur la malbouffe, donc qui s'appelle Toxique. ça a été les enquêtes les plus difficiles, où c'est extrêmement dur d'avoir des gens qui parlent, c'est extrêmement dur de ne pas être manipulé. Quand je dis manipulé, c'est parce que ces groupes-là agroalimentaires, dans Coca-Cola et en des représentants, ont des machines à communiquer extrêmement huilées, ont des relations plus ou moins incestueuses avec certains chercheurs, avec certains organismes. Donc, il faut douter de chaque information. Donc, c'est très difficile. Et pour Coca-Cola, il m'est arrivé quelque chose d'assez unique. C'est que un jour, au moment de mon enquête, alors qu'à ce moment-là, je ne suis pas encore rentré en contact avec Coca-Cola pour leur demander des informations, je reçois une lettre de mise en garde de Coca-Cola qui me dit, je résume, mais en gros, on sait que vous êtes en train de travailler sur le sujet, on vous rappelle que nous sommes une marque déposée et que, en gros, on engagera des poursuites si vous parlez de nous. C'est pas dit exactement comme ça, mais c'est le sens du courrier que je reçois. Et là, c'est extrêmement troublant parce que ça veut dire qu'une des personnes que j'ai rencontré est allé parler à Coca-Cola, est allé leur dire que j'étais en train d'enquêter et que c'est monté suffisamment haut pour générer ce courrier de mise en garde sympathique. Voilà. Donc ça, c'est enquêter sur Coca-Cola. C'est très, très, très particulier. C'est un milieu très fermé. C'est une entreprise qui brasse des milliards, qui est extrêmement sensible à sa communication, à son storytelling, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, elle n'accepte pas un regard extérieur et surtout pas lorsqu'on se présente en disant « voilà, je suis journaliste indépendant et donc je vais mener mon enquête, je vais recouper tout ce que vous allez me donner parce que au-delà des dossiers de presse, il faut aller plus loin que ça ». Et ça, ils n'ont pas aimé. Alors après, le problème, c'est que j'ai fait mon livre et que Coca-Cola ne peut rien y faire. Parce que la totalité de mon livre, y compris dans ses révélations, est basée uniquement sur des documents. C'est-à-dire qu'il y a un énorme travail d'archives en France avec mon père, mais aussi aux États-Unis, dans des archives universitaires où on retrouve, par exemple, la correspondance du président de Coca-Cola. Donc, c'était extrêmement difficile parce que lorsque j'annonce des choses dans mon livre, à chaque fois, c'est un petit peu studieux, il y a des centaines de notes de bas de page pour donner la source. Donc, à la fin, ils se sont retrouvés avec le livre est sorti. Ils ont refusé de le commenter en prétextant que c'était un roman. Qui dit roman dit travail de fiction, alors que c'est un travail d'enquête. C'est absolument pas un roman. Mais bon, ça, ça a été leur seule stratégie de réponse. Ils ont pu rien faire d'autre. Donc, finalement, malgré les menaces, malgré tout ça, il n'y a pas eu de suite judiciaire à la publication de mon livre parce que tout était sourcé.
Pour sécuriser sa place hégémonique, Coca-Cola a mené différentes batailles, notamment une guerre contre Pepsi, qui souhaitait lui voler des parts de marché dans les années 80. La concurrence a souvent été rude pour le géant du soda, une concurrence qui se lie aussi à la diversité des colas régionaux, dont l'émergence est à noter, bien qu'elle ne soit pas de nature à remettre en cause l'hégémonie coca-colienne. Car la plus grande menace qui pèse en réalité sur Coca-Cola est tout autre. Elle prend surtout forme dans les attentes des consommateurs et consommatrices, notamment en matière diététique et d'exigences écologiques.
L'âge d'or des colas et de la guerre des colas, c'est les années 80, autour du centenaire de Coca-Cola d'ailleurs, avec la guerre Pepsi principalement, qui est un concurrent fort à l'époque, une guerre qui va s'illustrer par des pratiques commerciales extrêmement tendues, on essaie de prendre des parts de marché à l'autre, on essaie d'acheter des concurrents pour se renforcer, et puis surtout des formidables publicités où on va taper très très fort dans l'autre, surtout Pepsi qui est le challenger qui va essayer de démolir Coca-Cola. Mais Coca, à ce moment-là, a une hégémonie telle que même les pics les plus forts de Pepsi ne réussissent pas à venir toucher cette hégémonie. Depuis, la situation a un petit peu changé. Coca-Cola est toujours numéro un, mais le marché s'est éclaté avec plusieurs colas régionaux, etc., qui, lorsque ils deviennent importants, souvent Coca-Cola les rachète. Ça aussi, c'est nouveau, cette volonté, au lieu de dire, voilà, on continue simplement sur nos produits, en fait, finalement, on va acheter des mini-secteurs sur les boissons énergisantes, par exemple. On va, au lieu de partir notre propre marque, notre propre produit, on va aller acheter des choses qui existent déjà. Donc là, Coca-Cola a changé. Mais dans la réalité, Coca-Cola est toujours le soda numéro un. Mais aujourd'hui, son plus gros concurrent, en fait, ce sont des questions de santé publique. Il faut savoir qu'en 1986, lorsque Coca-Cola fête son centenaire, la volonté affichée du président de Coca-Cola à cette époque, c'est de dire « aujourd'hui, notre seul concurrent, c'est l'eau et on va remplacer ça ». Entre-temps, il y a eu une pandémie d'obésité, qu'on vit toujours, une pandémie d'obésité mondiale, qui ont fait qu'on a commencé à s'interroger énormément sur nos habitudes de consommation, dont l'explosion des sodas, qui en plus utilisent soit des produits chimiques qui par moment posent question, soit ont substitué le sucre par du sirop de fructose glucose qui a des effets négatifs sur l'organisme. Et donc, à un moment, on peut mettre en parallèle, on peut faire peut-être la même chose avec McDonald's d'ailleurs, l'évolution de la courbe de l'obésité aux États-Unis, même dans le reste du monde, et celle de consommation de Coca-Cola. Donc aujourd'hui, le défi numéro un de Coca-Cola, c'est de continuer d'exister alors que les habitudes des consommateurs sont en train de changer parce qu'il y a eu à la fois ces condamnations sur le sucre et les effets de santé, mais à la fois aussi, il y a eu un rejet de la marque et du symbole de la marque sur des questions écologiques, par exemple sur l'utilisation de l'eau. Donc ça, aujourd'hui, ce sont les défis de Coca-Cola. C'est comment répondre à cette pandémie mondiale et comment continuer à exister malgré les défis écologiques que représente. De toute façon, moi, j'ai pu visiter une usine qui met en bouteille du Coca-Cola. Il faut savoir que l'eau est traitée de multiples fois pour avoir un taux de pureté qui correspond à ce qu'ils veulent, etc. Donc c'est clair que pour faire cette boîte de coca que vous allez avoir en main, il y a une utilisation importante de ressources naturelles. Donc ça, c'est un vrai défi pour Coca-Cola aujourd'hui.
Aujourd'hui, Coca-Cola fait tout pour maintenir une image lisse de marque mythique qui a traversé les époques en étant toujours au plus près des gens. Mais pour la marque, cette place hégémonique s'est aussi faite en jouant des coudes, y compris à certains moments critiques de l'histoire. William Raymond a ainsi révélé dans son livre les liens entre Coca-Cola et l'Allemagne nazie.
Le cœur de mon livre, je crois, c'était de revenir sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que la Seconde Guerre mondiale a été une période terrible, mais pour Coca-Cola, c'est le début de son expansion mondiale. On pourrait presque dire que sans la Seconde Guerre mondiale et l'entrée en guerre des États-Unis, Coca-Cola n'aurait peut-être pas eu, ou peut-être plus difficilement, cet essor mondial qui a fait que c'est devenu la première marque globale au monde. Avant n'importe quoi, avant d'autres, c'est Coca-Cola qui est devenue cette marque globale. Et pourquoi ? Parce que grâce à des connexions politiques et une volonté affichée de la marque à Atlanta, Coca-Cola est devenue une boisson qui avançait avec les troupes américaines. L'idée était de donner aux GIs, aux soldats américains, la possibilité de consommer du Coca-Cola comme ils auraient pu le faire à la maison. Mais ce qui était intéressant, c'est que à mesure que les troupes avançaient, les usines qui étaient mises en place pour les soldats américains restaient et ont commencé à vendre leurs produits, que ça soit en Algérie, en Italie, puis en France, etc., etc. À mesure que l'armée américaine avançait, Coca-Cola s'installait avec en plus cette réputation, c'est toute leur publicité, c'est toute leur communication dans les années 42, 43, 44, 45 et suivantes, que c'est la boisson de la liberté, qu'elle est bue et consommée par les libérateurs, et avec elle, il y a toute une qualité de vie, un style de vie qui s'y accroche. Donc ça, c'est ce qui permet à Coca-Cola de devenir cette marque globale à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusque dans les années 70 où son hégémonie dans le monde s'installe. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai un document à l'appui pu démontrer que pendant que Coca-Cola publiquement affichait, encore une fois grâce à des publicités, ils étaient cette boisson de la liberté, pour des raisons économiques, ils ont continué à travailler avec l'Allemagne nazie. Il faut savoir que l'Allemagne, avant la guerre, est le marché le plus important au monde, hors États-Unis, pour Coca-Cola. Ils ont commencé à essayer d'aller vendre des produits à droite, à gauche, en France, en Angleterre, etc. Mais le pays où l'investissement le plus fort est fait et où la consommation est la plus prometteuse pour eux est l'Allemagne. Et puis là, il y a la guerre. Et donc, à partir de là, cette décision d'entreprise américaine, une fois que les Américains entrent en guerre en 42, d'arrêter de faire du commerce avec l'Allemagne nazie. Et ce que j'ai pu démontrer dans mon livre, rapport à l'appui, etc., c'est que Coca-Cola a continué à trouver des manières d'envoyer son sirop, qui est le produit de base, qui après est mélangé par les embouteilleurs avec de l'eau gazeuse, en gros, pour simplifier. Donc, ils ont trouvé des routes dans ce monde en guerre pour continuer à apporter leur sirop jusque dans, au cœur de l'Allemagne nazie, dans des usines où les propriétaires, faute de main-d'œuvre, utilisaient des prisonniers de camp pour venir travailler. Donc d'un côté, vous avez Coca-Cola, boisson symbolique de la libération de l'Europe, mais de l'autre, Coca-Cola continue à faire du business avec l'Allemagne nazie et indirectement utilise des gens qui sont des prisonniers pour continuer à faire leurs produits.
En France, Coca-Cola ne s'est pas implantée si facilement. La marque a en effet dû faire face à un concurrent de taille dans les bars et les cafés. Et ce concurrent, c'est le vin.
C'est quelque chose qui n'a jamais cessé pendant 40 ans ou 50 ans où Coca-Cola, symbole américain, a été visé à chaque fois qu'il y avait des conflits sociaux contre l'hégémonie américaine. Alors, Coca-Cola a trouvé une manière extrêmement intelligente en France et ailleurs de s'échapper de ça, de tenter de s'échapper de ça. Et ça marche parce que on ne voit plus d'envahissement d'usines, de camions de livraison attaqués. Ce sont des choses qui se sont passées en France. Et leur stratégie aujourd'hui est de mettre en fait que Coca-Cola est une boisson locale. Oui, la recette vient des États-Unis, mais la marque en France, comme ailleurs, est gérée par une structure française avec des capitaux français derrière. Et donc, c'est devenu leur nouveau positionnement. C'est comme ça, par exemple, qu'ils ont réussi le pari d'être en Israël et en Palestine en disant, voilà, nous sommes une boisson locale. Ce sont des ambassadeurs locaux. Quand il y a eu la première guerre du Golfe, Coca-Cola a communiqué là-dessus parce qu'ils craignaient un petit peu pour leurs activités dans certains pays arabes. Donc, l'idée, c'était de dire, non, non, on est une boisson locale. On fait travailler des gens chez nous. Les propriétaires sont votre voisin, etc., etc. Donc, ça, c'est le positionnement. Mais pendant 40 ans, Coca-Cola a dû se battre contre le fait que Coca était devenu le symbole de l'Empire américain.
À l'heure où nous parlons, Coca-Cola est donc plus que jamais cette marque symbole qui tente de vivre avec son époque en déclinant toujours des versions de son soda répondant à chaque fois à un segment de marché. Coca-Cola Light pour les personnes au régime, Coca-Cola Zero pour éviter d'avoir à dire qu'on fait attention à sa balance, Coca-Cola Life et sa canette verte pour se racheter une conscience écologique, soit une véritable marque phare et cas d'école de ce que le capitalisme nous réserve toujours pour se frayer un chemin jusqu'à nos imaginaires. Si vous aimez Bouffon et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho, Mathilde Jonin et Diane Le Sieur. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Maillot.